plusieurs sujets et questions à poser à notre invité aujourd'hui, l'historien et démographe Emmanuel Todd, auteur de L'Empirisme, dialogue sur l'épistémologie des sciences sociales, un éloge paru au CNRS édition où il revient sur cette méthode qu'il a suivie et qu'il porte encore aujourd'hui. Contributeur par ailleurs de Par ici la sortie, une toute nouvelle revue éditée par Le Seuil dont le numéro 1 vient de sortir et qui réunit tous les auteurs maison, de Didier Fassin à Geneviève Fraisse, de Bruno Cabanne à Justine Lacroix. Le souverainisme, grand gagnant de la crise, par où regarder pour trouver la sortie? On va en parler avec vous, Emmanuel Todd, bonjour.
Bonjour.
Depuis 3 mois, le monde entier a basculé dans la crise, sanitaire d'abord, économique ensuite. La première est en sursis, la seconde ne fait que commencer. Un état de crise dont on ne voit pas l'issue et dont on ne mesure pas les effets sur les sociétés qui l'a frappé, rappelle l'éditeur Hugues Jallon en introduction de cette revue qui vous réunit tous pour entendre un peu vos diagnostics, vos analyses aussi du moment que nous sommes en train de vivre. Et pour vous, Emmanuel Todd, où regarder pour trouver la sortie?
Moi, je vais, comme tout le monde, radoter, puisque ce qui est caractéristique et ce qui était prévu dans cette sortie de crise, c'est que les gens vont sortir avec simplement un renforcement de leurs préconceptions. J'avais observé dans... J'en parle dans l'article de mon expérience de l'épidémie de sida, en fait, qui avait été un bouleversement beaucoup plus violent que cette épidémie. Ça avait tué 40 000 morts en 10 ans en France, des gens jeunes, etc. Et à l'époque, dans la souffrance de l'époque, on se disait mais ça va changer les choses. Je craignais que ça ne mène à une vague de puritanisme, en fait, puisque c'est une maladie qui touchait les homosexuels, les toxicomanes, les personnes d'origine africaine, avec un biais génétique. Et il y avait tous les éléments pour que les attitudes changent, pour que la société se crispe dans autre chose. Et en fait, non. Je veux dire, les gens n'ont pas été affectés, la société a survécu, le libéralisme... de mœurs et l'égalitarisme racial, si on peut dire, se sont beaucoup plus rapidement diffusés. Et il y a eu un effet d'accélération. Et là, à l'époque du confinement, quand j'ai fait cet article, je me disais, c'est la bonne hypothèse pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire la même chose, mais en pire. Vous voyez, donc moi, je vais sortir. D'ailleurs, je suis la première illustration de ma propre théorie. Donc, j'ai toujours pensé qu'on ne peut absolument pas se sortir des problèmes économiques, de la désindustrialisation, qui a été quand même cruellement mise en évidence par l'épidémie, puisqu'on est une société soi-disant avancée, incapable de fabriquer le matériel nécessaire à sa survie. Et malgré ça, les gens, donc les européistes, vont continuer à imaginer que l'Europe est la solution, ou qu'il faut trouver des solutions dans un cadre européen. Les écologistes vont penser qu'il faut faire encore plus d'écologie. Les collapsologues vont se mettre leur chapeau sur la tête et creuser des trous pour s'y mettre. Vous voyez, c'est voilà. Donc, à mon avis, ce qu'on sent, c'est ça.
Alors ça, c'est sur la grande matrice dans laquelle nous vivons, mais c'est vrai que si vous reprenez le sida, le virus a quand même changé des choses dans les relations entre les gens. Déjà, il y a eu cette grande inconnue, elle est là encore, il n'y a pas de vaccin, on ne peut pas s'en prémunir. Et dans les relations humaines, il y a quand même eu du changement à partir du moment où ce virus a fait son apparition, tout en définissant des catégories plus fragiles ou disons plus exposées que vous avez rappelées.
Pas tant que ça, je m'excuse de le dire, parce que moi, si on peut dire, je suis dans les catégories, j'avais une trentaine d'années. Donc, je faisais partie des bénéficiaires de la révolution sexuelle d'après 68. Et c'est vrai que ça a amené de la prudence dans la relation sexuelle, évidemment. Mais si on pense en termes d'attitudes culturelles, et de développement économique, etc., d'équilibres sociaux, je ne peux pas dire. J'ai été surpris. Je maintiens mon point de vue quand même.
Alors, il y a eu le préservatif, il y a encore le préservatif, aujourd'hui le masque avec le coronavirus.
Je ne pensais pas que je venais
dans
ce parallèle.
C'est intéressant. Vous êtes historien, vous êtes démographe et vous êtes aussi sociologue. Qu'est-ce que vous entendez, vous, derrière ces termes de distanciation sociale?
Non. Honnêtement, je n'irai pas sur ce terrain, parce que je ne pense pas que les variables lourdes... Je sais que beaucoup de gens... Je suis conscient, j'ai lu. En particulier, il y a des choses très intéressantes sur le sujet dans la revue que vous présentiez au début. Mais je ne fais pas partie des gens qui pensent que le fait de porter des masques va changer tant de choses, que le télétravail va bouleverser. Mais peut-être je suis idiot. Ou peut-être que c'est j'ai l'habitude du Japon où les gens portent volontiers des masques et que les Japonais, quand même, me semblent se comporter assez normalement. Je ne sens pas le différence. Vous voyez?
Vous ne croyez pas? Non, mais vous n'adhérez pas à l'idée d'un avant et d'un après.
Ah, pas du tout.
Il y a le retour à absolument la normale.
Pas,
ou à
absolument
la
normale. Pas. Vous allez voir. On va rester aussi bête, aussi aveugle au vrai problème. Ne vous faites aucun souci.
Alors, le titre de cette contribution dans cette nouvelle revue, Par ici la sortie, que vous avez choisi, peut-être avec votre éditeur, c'est Une pastille étrange défaite de nos élites. Qu'appelez-vous cette pastille étrange défaite?
Elle n'est pas si étrange, parce que quand on est dans un.
Je dirais, elle n'est pas si étrange dans le sens où elle était attendue.
Bah, c'est-à-dire, alors, je vais donc vous resservir ma vision des choses. Je veux dire, ça fait des décennies que je dis que la globalisation produit une sorte de désarmement industriel, que la démocratie, c'est un système de décision qui ne peut être que national, que l'Europe ajoute à la paralysie, je dirais, du processus de décision économique. Et bien entendu, comment dire, on vit dans un monde, le fonctionnement des élites françaises, c'est un fonctionnement de déni, de surréel, d'annonce. Être élu en France, c'est passer à la télé, être meilleur à la télé, puis ensuite on arrive au pouvoir, mettons à l'Élysée, pour prendre un exemple simple, et on ne peut rien faire, puisque la France n'a pas de capacité de création monétaire, les règlements commerciaux européens empêchent toute action de protection d'industrie nationale, et on se retrouve au final, puisque l'économie allemande est beaucoup plus forte que la nôtre, avec une désindustrialisation massive, avec un taux de chômage de 10%, je dirais, et on ne peut rien faire. Et évidemment, d'habitude, on peut mentir. L'un des thèmes de mon papier, c'est qu'en France, j'ai repris la formule que j'avais apprise à Sciences Po, « gouverner, c'est choisir », de Mendès France. Et maintenant, je dis en France, « gouverner, c'est mentir ». Vous pouvez mentir. Donc en fait, ouais, c'est mentir. Et donc on ment sur les bénéfices de l'euro, on ment sur le bien-être que va nous apporter la globalisation, sur la nécessité de l'ouverture des frontières, on ment sur le sujet de l'immigration aussi. Et c'est difficile pour les gens de mesurer, de comprendre. Vous voyez? Mais là, alors là, oui, quand même quelque chose de formidable s'est passé dans cette épidémie, je vous l'accorde, là je vous rends un point. On a vu le mensonge en direct. Parce que sur la complexité de l'économie française, les mécanismes monétaires que personne ne comprend, même pas les gens qui ont fait la monnaie unique, on peut mentir. On peut croire qu'on est devant une copie de l'ENA, puis on met bout à bout des concepts qui s'enfilent, qui sont contradictoires, souveraineté européenne, souveraineté nationale. Vous voyez? Mais le virus, quand il n'y a pas de masque parce qu'on n'a plus d'industrie, vous voyez? Ben on est pris en flagrant délit de mensonge. Donc on avait Jérôme Salomon. Dans ma famille, on l'appelait Pinocchio. Parce qu'il apparaissait tous les soirs avec un nouveau mensonge et j'étais très surpris que son nez ne s'allonge pas. Vous voyez? Il y a un personnage comme ça dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, en fait, dont le nez s'allonge chaque fois qu'il vient dire au passager.
Vous avez revu vos classiques pendant le confinement, en fait.
C'est mon stock. Je veux dire, chacun ses références, hein. Donc, ils étaient là, on n'a pas de masque, respirateur, une espèce de show incroyable de gens qu'on transporte à travers la France, sans même se poser la question si ça serait pas plus raisonnable de transférer les machines vers le Grand Est, vous voyez. Mais les Français ont été enfermés chez eux dans une sorte de totalitarisme ridicule. Parce qu'ils savaient, en fait. Donc, tous les soirs, le lot de mensonges. Ah non, on n'a pas les résultats des EHPAD. On ne sait pas très bien quel pourcentage de vieux des EHPAD meurent. 10%. Ah non, retoqué. 30% quand ils passent en réanimation. Vous voyez? Donc, il y a eu, on a eu la réalité sur ce que c'est que gouverner en France. Et ce que j'aimerais faire passer comme idée, si c'est possible, c'est que les gens doivent comprendre que quand ils parlent de l'euro, quand ils parlent du contrôle des frontières, je parle sur le plan commercial, etc., nos gouvernants sont à peu près autant en position de mensonge systémique que quand ils nous parlaient à la télévision de l'état de l'épidémie, de nos masques, etc.
Vous auriez voulu ou vous attendiez peut-être, sans trop y croire, un instant de vérité, visiblement que vous n'avez pas trouvé dans ces moments-là.
Je veux dire, les Oui.
Non, mais est-ce que vous êtes persuadé que cette épidémie, elle était prévisible et que, du coup, ils auraient pu savoir ou ils auraient pu réagir en connaissance de cause?
Oui, non, mais je veux dire, par définition, les épidémies sont prévisibles. Si vous avez un personnel compétent dans les hautes sphères de l'État, c'est-à-dire des gens, pas de l'ENA en fait, les épidémies, dans l'histoire humaine, on doit toujours penser que c'est possible. Les virus ont une histoire. Les virus, je dirais, ont leur vie et leur histoire parallèle à celle de l'homme, comme de toutes les autres espèces vivantes. Et donc, on a eu quelques années avant une autre variété d'une maladie pulmonaire. Il y avait eu le sida. Si vous voulez, quand on gouverne, et ça, c'est vrai pour l'avenir, on doit partir du principe qu'il y aura des épidémies. Vous voyez, alors là, par contre, je ne tomberai pas dans le panneau de dire des choses du genre c'est la faute au réchauffement climatique, c'est la faute de la globalisation. Je veux dire, la grande peste de Marseille de 1720, ce n'était pas la globalisation. Vous voyez, on aurait pu dire que la grande peste de 1348, c'était un genre d'interconnexion, de globalisation avec la Chine à nouveau. Mais bien sûr, on en aura d'autres. Donc la question qu'il faudrait poser maintenant, c'est qu'on nous tienne au courant de la construction des usines qui vont assurer notre sécurité sanitaire dans les 100 ans qui viennent.
Donc c'est pas la faute de la mondialisation ou de la globalisation, mais vous faites quand même un constat dans cette contribution que beaucoup partagent avec vous. Le coronavirus signe la mort intellectuelle de la globalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il autorise d'une certaine manière le retour de l'idée de nation, qui a une réhabilitation intellectuelle du souverainisme, du protectionnisme qui va se faire aussi aujourd'hui.
Bon, je crois que quelque part l'idée nationale a reconquis le terrain perdu. Mais ce qui est frappant, enfin moi ça fait, je fais décidément de plus en plus un numéro de retraité, mais l'idée que j'ai écrite très tôt, des années 90, l'idée qu'un retour à l'idée nation était nécessaire, et donc c'était gagné. Bien évidemment, cette épidémie qui a montré un gouvernement français et beaucoup d'autres gouvernements européens hors d'état d'agir, le problème de la globalisation et de l'Europe, qui en est une composante, c'est que ça met les états nationaux, qui sont les seuls capables d'agir, hors d'état d'agir. Mais le problème, c'est... Et donc, je pense que les gens sentent, comprennent ça. Mais le problème, c'est que l'idée de nation, c'est un sentiment collectif. Ça demande un certain type de croyance collective, analogue et semblable un peu à une croyance religieuse, en fait, qui englobe tous les individus dans une même foi, d'une certaine manière. Et le problème... Pour les pays avancés, ça n'est pas d'arriver à la conclusion logique que seule la nation peut agir. Ça, je pense qu'on en est très près. C'est d'avoir chez les citoyens de l'ensemble d'un pays, et pas seulement dans les classes dirigeantes, je veux dire, c'est pas le discours de diabolisation des élites n'est absolument pas suffisant, d'avoir un substrat de sentiments collectifs qui permettent de mettre les choses en pratique. Et les développements socio-psychologiques du monde avancé, un certain type d'individualisme, le reflux des croyances, quelles qu'elles soient, le ricanement universel qui nous amuse tant à la télé, moi comme les autres, tout ça fait qu'on ne peut pas agir. Et on voit déjà dans les sondages d'opinion qu'on risque d'être confronté aux alignements et aux désordres politiques traditionnels avec un président qui, la prochaine fois, risque d'être élu au hasard par défaut, vous voyez. Donc il y a une sorte de blocage psychologique et social de la société qui n'est pas au niveau des idées, qui est plus profond, en fait. C'est là-dessus que je travaille, mon travail anthropologue. Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de croire ensemble avec un but commun, même si, en gros, on est d'accord sur ce qu'il faut faire? Donc vous aurez maintenant, donc on se traîne avec des élites qui font semblant de croire à l'Europe, mais essayer de croire à l'Europe, c'est s'efforcer de croire à un truc collectif.
Alors moi j'entends plutôt au fil, en tout cas des allocutions présidentielles, un président qui vous donne plutôt raison sur cette idée de nécessaire réindustrialisation, nécessaire relocalisation, encore dans sa dernière allocution.
Le moment que nous traversons, et qui vient après de nombreuses crises depuis 15 ans, nous impose d'ouvrir une nouvelle étape afin de retrouver pleinement la maîtrise de nos vies, de notre destin en France et en Europe. Ce sera la priorité des deux années à venir que je veux utile pour la nation. C'est aussi le cap de la décennie que nous avons devant nous. Retrouver notre indépendance pour vivre heureux et vivre mieux.
Deux décennies n'y suffiront pas, Emmanuel Todd.
Non, c'est pas ça. Il nous parle d'indépendance. Les conditions de l'indépendance, c'est la sortie de l'Union européenne. C'est la sortie de l'euro. Et ce qu'il nous a parlé, dans les deux ans, il peut le faire. De liquidation des règlements commerciaux européens et de sortie de l'euro. Donc c'est du vent. Vous voyez, c'est des mots. En fait, il ne sait pas de quoi il parle, ce garçon. C'est tout.
La France au bord de la guerre civile, c'était aussi, et déjà votre théorie au parti pris de votre dernier essai, les luttes des classes en France au XXIe siècle, paru au Seuil, où vous régliez encore ses comptes à la monnaie unique, échec économique, mais victoire politique, elle est là hein, pour l'instant, cette monnaie unique. Ouais. Et il sera compliqué d'en sortir, on paierait d'ailleurs aujourd'hui aussi le prix de cet échec, avec une pandémie qui nous rappelle la primauté de l'appareil industriel sur la monnaie. Il va falloir peut-être remettre du coup... Vous le pensez, Emmanuel Todd, pour essayer de débloquer cette situation, vous évoquez ce blocage sur lequel vous travaillez, remettre du conflit politique, du conflit idéologique aussi.
Oui, mais c'est ça qui est dur. C'est-à-dire que les conditions sont là. Dans mon livre, j'avais la description de ce que j'appelle la majorité centrale atomisée, porteuse de toutes les évolutions culturelles, mais qui est un lieu d'hyper-individualisme et désintégration des sentiments collectifs. Mais là, je voudrais essayer de dire autre chose que le discours anti-Macron ou anti-élite et parler des problèmes du souverainisme, en fait. Spontanément, les gens me classeraient sans doute comme souverainiste. Et donc, j'aimerais dire pourquoi, en fait, non.
Alors, oui,
en fait, non. Je veux dire, quels sont les problèmes du souverainisme en France ? Mon frère a sorti une revue, je l'ai écouté hier à la télévision, il m'impressionne toujours par son punch. Chaque fois que je le vois, je me dis, mais jamais je pourrais comme ça, c'est vraiment formidable. Et bien entendu, dans tout ce que disent les souverainistes, bon, c'est clair que dans tout ce qui est analyse économique, analyse sociale, conception d'une démocratie qui ne peut fonctionner que dans le cadre d'une nation et d'une histoire, dans toutes ces dimensions-là, je suis très proche. Mais ce que j'ai constaté, empiriquement, pour continuer dans mon éloge de l'empirisme, c'est que quand on connaît les milieux souverainistes, quand on voit les gens qui écrivent, qui parlent du souverainisme, on se rend compte qu'ils n'ont pas une vision fondamentalement, optimiste et inclusive de la nation. C'est-à-dire que pour moi, il y a une précondition, comme précondition à la renaissance de la nation, pour moi, il n'y a pas que la sortie de l'euro. Il y a aussi de dire, bien sûr, il faut du protectionnisme économique, bien sûr, il faut de la souveraineté monétaire, bien sûr, il faut accepter l'idée d'un contrôle des frontières, mais une autre précondition, c'est que avant cette reprise en main de la société française par elle-même et par son système politique et par ses citoyens, il faut fortement déclarer que tous les gens qui sont là, quelle que soit l'origine, sont des Français. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir avec optimisme sur la question de l'islam, du communautarisme. Il faut accepter la réalité de petites différences qui persistent. Et il faut vraiment rentrer dans un monde français un peu plus divers qu'avant et fraternel, dans lequel les presque 20% de naissance de gens qui portent des prénoms musulmans sont des Français.
Sinon, ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Et si vous voulez, je vais pas commencer à citer des noms, mais même mon frère a écrit des trucs pas sympas sur l'islam. Je ne parle pas de Zemmour, qui est complètement obsédé par ça et qui dit des choses sur l'économie très, très intéressantes et très valables. C'est un type intelligent. Mais il est évident, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Dans les milieux souverainistes, Pas tous. Mais vous verrez quand même que la force du souverainisme est quand même un peu proportionnelle à cette xénophobie interne. Donc vous allez trouver des gens qui vous disent, utilisant les études de Fourquet, ah ben c'est terrible, 20% de Français d'origine étrangère, etc. Eh ben, et qui ont l'air de dire que ça montre qu'il y a un super problème. Non, ça montre pas qu'il y a un super problème. S'ils pensent que c'est un super problème, la France est terminée. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Parce qu'une nation de la taille de la France, si elle veut récupérer sa souveraineté, doit s'appuyer sur tous ses citoyens. Et donc, le projet souverainiste, je veux dire, tant qu'il ne mettra pas dans ses priorités l'intégration optimiste, une sorte de nouvelle fête de la fédération, de ces gens d'origine immigrée, sera condamné à l'échec. Et je le trouverais largement aussi ridicule que l'élitisme, l'énarchie et les européistes.
Voilà, donc ce projet souverainiste qui échoppe aujourd'hui sur cette distinction ouverture-fermeture que vous évoquiez. On a reposé, puisque vous parliez d'eux, à Michel Onfray et à Éric Zemmour, c'était CNews, avec Christine Kelly, la question de la différence entre le souverainisme de gauche et le souverainisme de droite. On va écouter leur désaccord, ou plutôt leur accord sur cette distinction.
Si vous mettez en concurrence des enfants indiens ou des enfants marocains et puis des adultes qui sont des travailleurs français, il est bien évident que le travailleur français, on va le mettre au chômage parce qu'on va vouloir sous-traiter, parce qu'il faut faire de l'argent. Donc c'est le libéralisme qui évidemment déteste le souverainisme et lui a décidé qu'il fallait salir ce mot-là, qui veut un gouvernement planétaire. Ce qu'est l'État maastrichtien, c'est un État totalitaire, puisqu'il y a quand même une espèce d'homogénéité, de totalitarisme idéologique, etc., qui vise... Lisez Jacques Attali, il a dit qui gouvernera le monde, il a publié un livre dans lequel très précisément il dit notre objectif c'est le gouvernement planétaire.
Éric Zemmour.
Oui, là-dessus on est tout à fait d'accord sur leurs intentions et sur leurs objectifs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je vous répète, ça va être très compliqué parce qu'il y a des intérêts objectifs. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas seulement les élites industrielles, financières, etc. qui ont intérêt, c'est aussi les classes populaires.
Voilà, cette discussion, cet échange, vous y retrouvez ce que vous venez d'évoquer, Emmanuel Todd ?
Je me sens loin, en fait. Et de façon générale, je suis pas dans l'opposition gauche-droite, l'élitisme, le populisme, etc. Je pense que les solutions sont ailleurs. Par exemple, opposer l'idée de nation et l'idée de libéralisme, ce que faisait Onfray, me semble-t-il, c'est absurde. Les Américains et les Anglais sont dans un recentrage national qui ne va pas les empêcher d'être libéraux, en fait. De même que les Allemands sont dans, je dirais, une dispersion internationale qui ne va pas les empêcher d'être autoritaires. Vous voyez ? Donc, c'est pas... Je crois que... Mon point de départ, si je devais analyser la situation, les affrontements, ça serait pas de... Finalement, c'est très clair que ça n'est pas d'idéaliser les élites, mais ça ne serait pas non plus de les diaboliser non plus. Et je crois, en fait, c'est des gens comme Macron, les gens qui l'entourent, sont beaucoup plus perdus dans l'histoire que machiavéliques. C'est-à-dire que peut-être je suis plus empathique et c'est une sorte de bienveillance de l'âge. Je pense que Macron, c'est plus du tout où il est. Et quand vous voyez, regardez ce qu'on vit là. On vit des débats sur la police où on trouve des mises en accusation des policiers par le gouvernement, alors que le gouvernement les avait lâchés comme des bêtes féroces sur les gilets jaunes. Donc le gouvernement ne sait plus où il est. Alors, on voit des lignes de force. C'est-à-dire, on voit bien que la violence monte et que le débat maintenant sur qu'est-ce que gouverner en France, fondamental, ça n'est plus d'arranger les choses sur le plan économique, ça n'est pas de reconstruire l'appareil industriel, c'est de s'assurer qu'on a un système de répression solide, compétent ou pas.
Mais ça, c'était une question qui était effectivement déjà posée avant la crise sanitaire. Quelle police voulons-nous au service de quel État ?
Mais je trouve que c'est très révélateur. C'est-à-dire que on était dans des problèmes de gestion policière, on sort
et on y retourne.
On nous annonce une crise économique et le débat est sur la police. Et ça, c'est du sérieux.
Mais
quand Macron nous parle de reconquérir notre souveraineté économique, tout le monde sait bien au fond qu'il est dans la pratique habituelle du pouvoir en France. Il ment, il raconte des histoires. Mais les débats sur la police, avec la crise qui s'annonce, dont on pense qu'elle arrive, ça c'est du sérieux.
Alors juste une petite question, et après on sort
et
de
si
cette...
Si Macron arrive et nous dit, bah, pour retrouver notre souveraineté, j'ai décidé de promulguer l'article 16 et un coup d'État, là je dirais, ouais, voilà un garçon sérieux.
Un dernier mot sur cette revue, et après on en revient à l'éloge aussi de l'empirisme, où on y vient, sur cette revue Front Populaire, lancée par Michel Onfray, revue, plateforme, projet politique, il est un peu entre ces trois notions, n'ayant pas eu l'objet entre les mains, j'aurais bien aimé, mais je ne peux pas vous en parler sur le fond.
J'ai écouté Onfray attentivement.
Oui, mais on n'a pas encore feuilleté, on a hâte. Oui. Michel Onfray qui dit, en tout cas, vouloir faire l'union des souverainistes de gauche et de droite, et d'ailleurs, une union, est-ce qu'elle vous semble souhaitable avec je ne sais pas qui, du coup. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisqu'on cherche ensemble hein, le par ici la sortie, titre de cette revue qui paraît au seuil, est-ce qu'il faut quand même tenter une réconciliation, une union, et entre qui et qui pour vous, Emmanuel Todd?
Oui, mais je dirais, c'était intéressant cette discussion à la télévision, parce qu'évidemment, tout le monde se posait la question de savoir si cette revue, qui est quelque chose d'important, vous voyez, c'est vraiment... je suis content que ça existe, en fait, sur le fond. Même si je me sens loin, en fait, mais je suis content.
Bon, clairement dit, Michel Onfray vous appelle demain, vous propose de participer au prochain numéro.
Jamais, je ne supporte pas ce qu'il dit sur l'islam. J'aime pas la façon dont il a écrit sur la judéité de Karl Marx. Vous voyez, absolument.
Donc vous dites
absolument,
non, ça, c'est clair.
Absolument jamais.
Alors après, qu'est-ce qui est intéressant, du coup?
Les gens se posaient la question d'un débouché politique. Parce que, évidemment, on a des gouvernants qui prétendent toujours gouverner, mais qui sont responsables quand même. Si on avait eu un taux de mortalité de type allemand pendant la crise du Covid, on aurait eu 20 000 morts de moins. Donc, à la louche, on peut dire, les types qui nous gouvernent nous ont permis 20 000 morts de trop. Ils devraient être partis. Vous voyez, ça, je veux dire, pour le coup, je ferais volontiers du dégagisme. C'est pas du tout mon tempérament. Je suis pas du tout mélanchoniste de tempérament. Mais là, quand même, et ils sont toujours là. Ils sont toujours au pouvoir. Donc, on se dit, on sait très bien que Marine Le Pen est incapable de gouverner. Et donc la question qui est posée maintenant, on a Macron nous assure qu'il a 2 ans pour réaliser l'indépendance économique de la France sans savoir du tout comment s'y prendre. Nous, les Français, notre problème, c'est comment nous débarrasser de cette équipe de nuls dans les 2 ans qui viennent. Et donc, il se posait la question. Donc, est-ce que le projet d'Onfray, ça va permettre de trouver quelqu'un qui incarne... Non, je veux dire, il faut un programme. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est, je dirais, l'immaturité du souverainisme sur la question d'un deal, en fait.
Enfin, dans un programme, il
faut... un deal, je dirais, national. Je veux dire, d'accord pour la prise d'autonomie et le contrôle des frontières, mais tout ce qui est à l'intérieur est français, 100%, au départ. Et tant que le souverainisme n'a pas atteint cette maturité... il n'y aura pas de problème possible, il y aura des types décontractés dans ces questions, sur ces questions, dans peut-être trop même, dans le souverainisme, qui voudront l'ouverture des frontières, etc., ou qui n'auront pas compris qu'il faut contrôler les frontières. Et puis, vous aurez des mecs comme Zemmour, qu'une sorte de pathologie de l'islam, en fait. C'est juste pas possible.
J'ai fait mes études d'histoire au moment de la floraison maximale de l'école des Annales, à l'époque justement où tout le monde étudiait les variables intéressantes. Racontez-vous dans Éloge de l'empirisme ce dialogue sur l'épistémologie des sciences sociales que vous avez eu avec Marc Joly et qui en partie et qui paraît aujourd'hui au CNRS édition. C'est un mot de cette méthode donc empirique dont vous faites l'éloge dans ce livre. Sortir des excès du débat médiatique pour retrouver sa casquette de chercheur en sciences sociales, ça semble heureusement nécessaire pour vous. C'est peut-être probablement le point d'équilibre. Je reste un chercheur, appelez-vous, affirmez-vous. Ce titre, une pas si étrange défaite de nos élites, on imagine qu'il y a une référence à l'étrange défaite de Marc Bloch qui, à l'été 40, rédige cette analyse implacable de la débâcle française qui tente de dresser un peu les responsabilités, alors là, militaires et politiques, peut-être aujourd'hui on le fait d'un point de vue sanitaire et politique de notre échec. Quel témoin vous êtes dans cette crise? Vous vous placez où?
Je ne suis pas, en fait, par formation, je ne me considère pas comme un intellectuel français. Je suis un chercheur et je suis intervenu dans les débats occasionnellement que parce que j'avais le sentiment d'avoir mis la main empiriquement, comme c'est dit dans le livre, sur des choses intéressantes que les gens n'avaient pas pour comprendre. Donc mon premier livre, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, dans lequel j'annonçais bonjour, Vantardise arrive là.
C'est le moment.
C'est le moment Vantardise. La chute du système soviétique, je viens en rentier de cette prédiction réalisée depuis de longues années. J'avais trouvé, en baladant dans la bibliothèque de l'Institut national d'études démographiques, j'étais encore quasiment étudiant, j'avais trouvé un volume de l'eau. Des Nations Unies qui montraient une hausse du taux de mortalité infantile soviétique entre 1970 et 1974, si mes souvenirs sont exacts, puis un arrêt de publication, et d'après ça, j'avais vu que le système pourrissait, puis j'avais construit un modèle, je dirais, pour prendre ça. Quand je suis intervenu au moment du début du lupénisme sur la question de l'immigration, c'est parce que j'avais vu que le taux de mariage mixte entre enfants d'immigrés et population d'origine française un peu plus lointaine, malgré la présence du Front National, alors le seul mouvement d'extrême droite qui existait en Europe, ce taux de mariage mixte était beaucoup plus élevé qu'en Angleterre ou en Allemagne. Et ça me permettait d'interpréter le vote Front National comme l'expression d'une sorte d'universalisme frustré par une différence culturelle supplémentaire, plutôt que comme un phénomène, je dirais, véritablement raciste. Donc ça a toujours été comme ça. Et j'ai fait un livre sur les États-Unis dans lequel j'annonçais leur déclin, ça c'est pas mal vérifié. Ben, c'est pareil, je regardais le taux de mortalité infantile, etc. Mais ça peut se retourner. L'empirisme, par exemple, je serais capable de. Enfin, j'accepte tout à fait la constatation que on sent dans les indicateurs statistiques des freinages à l'intégration des immigrés. Alors ensuite, je les interpréterai par le blocage généralisé de la société française, pas par une volonté de résister culturellement. Mais donc, je suis toujours intervenu, je dirais, ou même le plus idéologique et passionnel et qui m'a valu le plus d'embêtements de mes livres, qui est Charlie. J'avais écrit ce livre parce que, en voyant la carte des manifestations dans l'IB, j'avais tout de suite reconnu la carte du catholicisme traditionnel en France. Donc, la méthode, ce que je fais, c'est j'entre dans un débat, en principe, quand j'ai le sentiment d'avoir quelque chose à dire. Et si j'ai le sentiment que ça peut servir à quelque chose. Vous voyez, je ne suis pas un intellectuel généraliste qui dit le beau, le
vrai. Aujourd'hui, vous avez encore le sentiment que ça peut servir à quelque chose,
non.
Cette parole
ou, non.
Comme
en
vous
fait,
dites
non.
Depuis une demi-heure,
non, en fait, non.
Vous vous sentez être un retraité de ça.
Non, vraiment. Je pense qu'on doit... vous savez, c'est terrible de vieillir en étant démographe. Une idée de ce que peut être sa propre espérance de vie, mais... Et historien avec une idée du rythme de changement des sociétés, mais c'est clair, j'ai pas le sentiment que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et ce que je pouvais dire d'utile est toujours utilisable. Mes livres sont là, mes analyses sur l'Europe, sur la diversité de l'Europe, sur son impossibilité dans l'illusion économique. Il y a ce qu'il faut, je pense, pour comprendre la mécanique économique qui nous broie. Mais là, j'ai passé mon confinement, m'a bien fait disjoncter. Je suis revenu à l'étude intensive du néolithique, qui est passionnant, vraiment passionnant. La première montée des inégalités, le néolithique, ensuite l'âge du bronze, les crises cannibales de l'histoire européenne, très instructive. Et voilà.
Et ce sera peut-être le
sujet. Et c'est un retour terminal à cet empirisme.
Mais je voudrais... dont vous faites l'éloge.
Et qui donne de bons résultats prédictifs. Contrairement à l'historiographie actuelle en France.
Éloge de l'empirisme vient de paraître au CNRS édition Emmanuel Todd. Une pas si étrange défaite de nos élites. Vous êtes l'un des contributeurs, nombreux contributeurs de cette nouvelle revue que l'on salue au Seuil. Le numéro de juin, par ici la sortie et le numéro 1. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Merci à Anna Holweg à la réalisation, Jacques Hubert à la technique, à la programmation. C'était Bruno Barada, Oriane Delacroix et Henri Leblanc à la préparation de cette émission. Laura Dutèche-Pérez avec Philomène Via et Marceau Vassy. Un très bel après-midi à tous sur France Culture.